actif dans le monde LGBT. Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Elle est cohabitante avec son partenaire dans le cadre de son travail. Elle doit faire des recherches sur le milieu chrétien. Un pasteur entend parler de cette femme dans sa ville, là où il est pasteur, et il invite Rosaria pour un dîner. Après plusieurs mois, il y a une réelle amitié qui se crée entre ce pasteur et Rosaria. Et bien entendu, le pasteur lui parle de Jésus-Christ. Et petit à petit, elle est tiraillée, attirée d'un côté à la personne de Jésus, mais attirée toujours par des femmes. Et elle se demande, comment puis-je à la fois aimer Jésus et le suivre, à la fois nier qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un de tendance homosexuelle. On reviendra à Rosaria à la fin. Son cas est particulier à elle, mais son cas tourne autour de cette question « Qui suis-je » n'est-ce pas, pour finir. J'aurais aimé donner d'autres exemples de ceux qui posent des questions à propos de l'IVG, à propos de le genre, à propos du racisme, à propos de l'euthanasie. Le temps ne permet pas de nous donner des exemples dans tout ce cas. Quand j'avais commencé à préparer ceci, j'avais 7 exemples et je devais tout couper pour en avoir qu'un seul parce que le temps a demandé cela. Mais faut-il choisir entre Jésus et ce que lui, il veut que je sois et ce que j'estime moi-même que je suis? Où se trouve l'authentique moi? C'est ça la question. Est-ce que je suis la projection de moi que j'aime mettre dans les photos sur Facebook ou Instagram? Est-ce que ça, c'est le moi authentique? Et que faire lorsque l'identité que j'aime croire que je suis est menacée par des circonstances inattendues? Par exemple, j'aime croire que je suis un homme de famille. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une dispute virulente dans mon couple? J'aime croire que je suis un bon employé, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon travail? J'aime croire que je suis un bon sportif, mais qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas sélectionné pour l'équipe? J'aime croire que j'ai un bon intellect, mais qu'est-ce qui se passe si j'échoue lors des examens? J'aime croire que les autres m'apprécient. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je ne reçois pas d'invitation de la part de ses amis comme recevaient les autres? Qui suis-je? Et je pense qu'il y a un danger lorsqu'on aborde ceci d'être traditionnaliste avant d'être biblique. C'est-à-dire, si on avait demandé à la génération au-dessus de moi, mes parents, tous leurs amis, pas forcément croyants, ou oui, se situaient sur certains débats éthiques, ils auraient dit tous qu'ils sont conservateurs sur des questions de l'euthanasie, sur les questions d'homosexualité. Mais aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'ils ont tous quasiment changé d'avis. Pourquoi? Parce que leur conviction n'était que traditionnaliste et non pas biblique, approfondi dans la parole de Dieu. Et donc, nous avons essayé de traiter cette question de manière biblique, chers amis, et non pas juste de manière émotionnelle. Mais bien sûr, c'est comme ça. Pas de question. Et non, nous allons essayer de dire que dit la parole de Dieu dans ces sujets. Et nous allons diviser la réponse à cette question « Qui suis-je ?» en deux. Aujourd'hui, j'aborde la première réponse. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et la semaine suivante, nous allons aborder qui suis-je sous l'angle de notre identité en Jésus-Christ, pour ceux qui ont la foi en Christ et l'espérance que cela me donne quant à mon avenir. Ce ne serait pas moi la semaine prochaine, ce serait James Healy Hutchinson, qui est aussi membre de notre église, qui va aborder la deuxième partie. Donc aujourd'hui, nous nous penchons sur ce texte primordial que vous voyez sur l'écran, Genèse chapitre 1. La semaine dernière, si vous y étiez des nôtres, vous vous souvenez que nous avons abordé ensemble le septième jour de la création, que Dieu avait travaillé pendant six jours, et au début du septième jour, il entre dans son repos à lui. C'était le début du septième jour qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons aborder plutôt le sixième jour, juste la veille du septième jour, où le point culminant de son travail de création, c'est l'homme. Nous apprenons trois fois dans les deux versets 26 et 27 que l'homme est fait à l'image de Dieu. Verset 26, faisant l'homme à notre image. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nulle part ailleurs est-ce que cela est dit d'autres œuvres de la création de Dieu, que ce soit des objets inanimés ou que cela soit des êtres vivants sur la terre, c'est-à-dire des animaux, les poissons, les oiseaux. À distinction des autres êtres créés, l'homme reflète Dieu. L'homme ressemble à Dieu, en partie, en tout cas. Si après les cinq premiers jours, Dieu avait observé ce qu'il a fait, et la conclusion, c'était quoi? C'était bon ce qu'il a vu. Ici, à la fin du sixième jour, il voit ce qu'il a fait, et la conclusion, c'est qu'il était très bon ce qu'il a fait. Donc c'est le point culminant de l'œuvre de la création. C'est l'homme. Mais qu'est-ce que cela signifie que nous portons l'image de Dieu? Et les deux premiers chapitres de la Genèse nous aident avec cette question, parce que qu'est-ce que nous voyons chez l'homme qui reflète Dieu, qui ressemble à Dieu? Mais dans ces deux chapitres, l'homme parle, tout comme Dieu parle. Dieu a créé l'homme avec une capacité relationnelle pour comprendre, pour exprimer sa volonté, pour se jouir des relations avec d'autres êtres humains. Mais aussi l'homme règne sur la création, tout comme Dieu règne au-dessus de l'homme. L'homme a le contrôle, l'autorité pour la bonne gestion de la terre. L'homme travaille aussi dans le jardin, tout comme Dieu a travaillé dans les œuvres de la création. L'homme crée donc aussi. Il ne crée pas, non pas ex nihilo, de rien du tout, comme Dieu il crée, mais l'homme doit quand même cultiver la terre. Il doit remplir la terre. C'est pour cela que l'homme est aussi créatif. Et vous et moi, nous sommes créé à l'image de Dieu. Et de ce fait fondamental, nous pouvons, je pense, souligner trois choses importantes pour comprendre qui nous sommes. Vous pouvez suivre sur le dos de votre feuillet le schéma si vous voulez voir où est-ce que nous allons ce matin. Donc, première chose que cela signifie, ça signifie que nous ne sommes des êtres créés et non pas le Créateur. C'est facile, je pense, à comprendre, mais peut-être plus difficile à accepter. Parce que par cela, je veux dire que les êtres humains ne peuvent pas se définir eux-mêmes. Voici ce que je suis. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Parce qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs limites en tant qu'êtres humains. Mais cela va à l'encontre de notre société occidentale, qui proclame haut et fort que nous pouvons être tout ce que nous voulons être, n'est-ce pas? C'est cet esprit que nous observons, que nous écoutons, que nous regardons sur des écrans. Vous vous souvenez du film Disney, grand succès ces dernières années, La Reine des Neiges, avec ses magnifiques chansons libérées, délivrées, que toutes les petites filles elles aiment imiter, c'est chouette. Mais les paroles ne sont pas chouettes. Okay? Donc voici, je cite la traduction française, qui est différente de la version anglaise. « Libéré, délivré, désormais, plus rien ne m'arrête. » C'est vrai, vraiment plus rien t'arrête. De cette magie, je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Elle avait cette magie, n'est-ce pas, de créer de la glace. Le bien, le mal, je dis tant pis. Tant pis. Je peux faire. Bah, ici, c'est moi qui dis maintenant, je peux faire tout ce que je veux. C'est ça. Je me débarrasse de mes limites qui m'ont été imposées par la société ou par la famille ou que sais-je. Je découvre en moi-même le vrai moi. Je dis et personne d'autre ce que je suis. Ça, c'est le message de notre société occidentale. Mais bien évidemment, c'est faux. C'est faux. Nous sommes des êtres limités parce que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas être un poisson si nous voulons l'être. Nous ne pouvons pas être un oiseau, même si on aimerait bien voler. Moi, j'avais toujours ça comme rêve quand j'étais petit. Jamais réalisé ce rêve. Oh, quelle déception. Okay? Tu ne peux pas être Dieu. Nous sommes limités, parce que nous sommes des êtres créés. Deuxième chose que j'aimerais souligner à ce stade, c'est que même si à bien des regards je ressemble à un animal, ça c'est le cas, je ne suis pas rien qu'un animal. C'est important à saisir. Je suis doté par Dieu d'une dignité innée que les autres animaux ne partagent pas sur cette terre. C'est vrai, apparemment, notre ADN ressemble à 95% celui d'un chimpanzé. Mais est-ce pour autant qu'un chimpanzé peut faire quasi tout ce qu'un homme peut faire? Bien sûr que non. La différence ne se joue pas sur le plan de notre ADN. Bien sûr, il y a des ressemblances. Nous sommes des êtres physiques comme eux, avec certaines ressemblances. Mais la différence se joue sur le plan de l'image que nous portons, nous, ceux créés à l'image de Dieu. Grâce à Dieu, je suis doté des capacités dont un chimpanzé ne peut que rêver. Et même ça, il ne peut pas rêver parce qu'il ne connaît pas ces catégories dans ses rêves. Il n'arrive pas à comprendre ce dont moi je rêve parce qu'il n'est qu'un animal. Nous sommes plus qu'un simple animal. Créer à l'image de Dieu. Troisièmement, d'autant que Dieu crée l'homme binaire, l'homme et femme, il l'a créé. Être un homme, être une femme, cela est une réalité créationnelle. Le récit de la Genèse, chapitre 2, confirme que la femme a été créée pour être une aide à l'homme. Elle est son vis-à-vis, mais elle est son aide dans la tâche que le Seigneur leur a donnée de cultiver le jardin, de remplir la terre. Il y a une complémentarité qu'ils partagent, l'homme et la femme. Les deux ne sont pas identiques, ils ne sont pas interchangeables. L'homme est l'homme et la femme, c'est la femme. Lorsqu'ils sont unis par des relations sexuelles, ils sont complémentaires physiquement et sexuellement, l'un et l'autre. Et c'est ainsi qu'ils deviennent, d'après Genèse chapitre 2, le dernier verset, une seule chair. C'est ainsi qu'ils puissent se multiplier pour remplir la terre. Et voici donc l'être humain, un être créé, un être humain, non pas un animal, et un être humain de deux genres. Hommes et femmes, deux qui sont complémentaires l'un et l'autre. Donc, peu importe l'époque dans laquelle je me trouve, peu importe ma culture, peu importe mon physique, peu importe mon intellect, peu importe la couleur de ma peau, peu importe mon accent, peu importe mon âge, peu importe mes capacités physiques, peu importe mon passé, peu importe même mon comportement, je suis, tu es, nous sommes créés à l'image de Dieu. Si l'histoire de la Bible s'arrêtait là, au sixième jour, on n'aurait pas besoin d'une prédication comme celle-ci, chers amis, quand tout allait bien le sixième jour. Mais dès que Dieu entrait dans son repos le septième jour, l'homme, quant à lui, il s'enchaînait avec un acte abominable, la désobéissance à leur Créateur. La décision de se rebeller, de ne plus faire confiance dans la bonté de Dieu, dans la parole de Dieu, mais de chercher une liberté sans contrainte du Dieu Créateur. Et cette décision-là donnait suite donc à ce qu'on appelle la chute de l'homme. Et celui qui portait la responsabilité pour cette chute, bien que ce soit sa femme qui mangeait le fruit défendu en premier, c'est Adam. Adam, parce qu'il avait la responsabilité dans son rôle en tant qu'homme de protéger, pouvoir pour sa femme. Il a choué. Et 1 Corinthiens chapitre 15, dans le Nouveau Testament, nous dit au verset 49, pas besoin d'aller voir ça maintenant, mais nous dit dans le contexte où nous parlons de l'image de Christ, mais dit néanmoins que nous portons l'image d'Adam. Nous sommes, les êtres humains, une race déchue, le péché originel gâché, la création telle que Dieu l'avait faite. Et les conséquences sont lourdes. Si nous suivons le récit de Genèse 3, les relations deviennent difficiles entre l'homme et la femme, le travail devient dur, l'accouchement de la femme devient pénible, la relation entre les hommes et Dieu est brisée. D'après le chapitre 8 de l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament, l'ordre créationnel tout ensemble, l'ordre naturel, a subi des conséquences graves. Tout ne tourne pas rond dans notre monde. La création elle-même, nous dit Romains 8, soupire et souffre de cette situation. Ce n'est pas que l'image de Dieu que l'être humain porte a été anéanti suite à la chute. Non. Malgré le péché de l'homme, nous continuons à porter l'image de Dieu. Mais depuis la chute, nous avons affaire, si vous voulez, à deux réalités qui sont à l'œuvre. Nous portons l'image de Dieu, nous portons en même temps l'image d'Adam. Les deux images sont vraies simultanément pour les êtres humains. Et cela a pour conséquence que parfois, ce que nous ressentons dans ce monde déchu ne correspond pas parfaitement à ce que nous sommes en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu. Ce qui nous paraît être naturel ne correspond pas à ce que Dieu nous dit est naturel. Et dans le temps qu'il nous laisse, j'aimerais maintenant donc appliquer ces fondements que nous avons vus dans le point 1 et 2, appliquer ces fondements à simples mais profonds, mais à certains domaines de notre vie. Ce serait juste un bref parcours dans ces domaines, mais si cela nous aide à nous sensibiliser à ces réalités importantes, à examiner ces réalités plus en détail par la suite, alors je pense que cette prédication se justifie. Première application, alors, chers amis, que vous voyez ici, la valeur et la dignité de l'homme. La valeur et la dignité de chacun d'entre nous, homme ou femme. Une valeur et une dignité qui sont les nôtres, car elles sont accordées par Dieu. Une dignité donc accordée sans discrimination raciale. Ils ne sont pas supérieurs des autres, grâce à la couleur de notre peau, grâce à notre accent que nous portons, etc. Mais c'est aussi une dignité accordée sans discrimination de l'âge ou de l'autosuffisance de l'être humain, qu'il soit encore dans le ventre de sa maman. Le psaume 139, verset 13, juste le verset après ce que nous avons lu, dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. » Donc notre dignité accordée sans discrimination de notre autosuffisance, que nous soyons encore dans le ventre de notre maman, que nous soyons handicapés, que nous soyons dépendants des aides soignantes dans un home. D'appeler l'avortement l'interruption volontaire de grossesse est une terrible manipulation de langage. Car cela dépend du point de vue que nous cherchons à adopter, du point de vue de l'être humain créé à l'image de Dieu, au sein du ventre de sa mère. Ce n'est ni une interruption, ni volontaire. C'est de la mise à mort involontaire d'un être humain. Chaque être humain a une valeur et une dignité qui est indépendante de ma qualité de vie telle que je la perçois, que les autres la perçoivent. Après tout, nous sommes des êtres humains et non pas des faiseurs humains. Si on devait justifier notre existence par l'utilité que nous portons pour la société, alors notre valeur dépend de notre utilité et non pas de notre être. Mais nous avons une valeur grâce à notre être créé à l'image de Dieu, une valeur accordée donc à ceux qui ont aussi échoué, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait des torts. Nous cherchons donc à traiter tout homme avec dignité et non pas avec dédain, avec amertume, avec colère ou avec haine. Deuxième application, chers amis, deuxième application, c'est celle qui découle de notre genre, homme et femme. Cela signifie par définition que nous ne pouvons pas choisir notre genre. Notre genre, comme toute notre race ou notre âge, nous est donné par Dieu. Mais est-ce que c'est le cas que notre genre doit correspondre à mon sexe biologique? Puis-je insister que oui, c'est important de respecter les différences hommes-femmes, mais que le choix du genre, homme-femme, ne doit pas se baser sur les organes sexuels que j'ai. Puis-je choisir d'être une femme, moi qui suis, biologiquement parlant, un homme? Et si vous dites, bah, c'est ridicule, ça, j'ai jamais entendu quelque chose de pareil, vous devez lire simplement vos journaux de tous les jours, parce que dans notre société occidentale, c'est là où nous en sommes par rapport au genre. J'avais un ami récemment qui m'a conseillé il y a quelque temps de changer mon genre afin de bénéficier d'une assurance auto plus raisonnable, car les femmes roulent plus prudemment que des hommes. Et donc s'il dit non, je choisis, monsieur, madame au téléphone, non, je suis une femme, je choisis d'être une femme. Okay? Donc, accordez-moi donc l'assurance que vous allez donner à une femme. C'est une blague. Ben, j'espère que c'est une blague. Mais il faut aussi reconnaître que pour certaines personnes, peut-être même certains parmi nous, cette lutte de notre genre est réelle. Mais puis-je choisir d'être une femme? Est-ce qu'une femme peut choisir d'être un homme? La réponse est non. Cela y va de notre statut de créature. Notre genre et notre identité biologique viennent dans un ensemble, une unité que nous ne pouvons pas séparer, même si nous disons que je suis une femme, etc. C'est pour cette raison-là que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle d'homosexualité dans Romains chapitre 1, verset 26, dit que des relations sexuelles entre des personnes du même sexe sont des relations contre nature. Dans de tels cas, dit Paul, les femmes ont abandonné les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, pour les hommes, ils se livrent, dit le texte, entre hommes, à des actes honteux. Cette ordonnance créationnelle s'applique non seulement donc à mon genre ou à l'homosexualité, mais également à ma compréhension de qui suis-je en tant qu'homme ou en tant que femme. Car il se peut que j'accepte, en fait, que mon genre est conforme à mon genre biologique, que j'accepte que les relations sexuelles qui cadrent avec mon genre sont celles avec quelqu'un du sexe opposé dans le cadre donné par Dieu, c'est-à-dire le mariage. Mais ensuite, dans le mariage, je rejette toute distinction entre l'homme et la femme lorsqu'il s'agit de notre rôle au sein du mariage. Est-ce que le fait que l'église protestante évangélique de Woolway, c'est-à-dire cette église-ci, n'a pas de responsables anciens qui sont femmes, est-ce que cela se relève d'une attitude traditionnaliste et non pas biblique? Est-ce que le fait de penser que dans le couple, l'homme est celui qui, comme Adam, doit porter la responsabilité devant Dieu pour la direction de la famille? Est-ce que cela fait de nous des misogynes? Non, non. Cela a des racines dans la création. L'homme et femme, il les a créés. Les textes bibliques du Nouveau Testament qui parlent des rôles complémentaires, 1 Timothée chapitre 2, Éphésiens chapitre 5, nous renvoient à la création pour affirmer ces rôles distincts. Bien sûr, notre doctrine de création affirme que l'homme et la femme, nous sommes égaux. Notre doctrine de salut, le pardon que nous recevons de nos péchés en Jésus-Christ, nous le recevons tous les deux, nous nous approchons de Dieu avec liberté, peu importe mon genre, mon statut social. Mais la doctrine de salut, ce que nous sommes en Christ, n'anéantit pas la doctrine de la création. L'homme et la femme sont complémentaires, ne sont pas identiques. Cela y va de qui nous sommes. Et ce n'est pas une question de capacité, chers amis. Et de nouveau, je pense qu'il y a un danger du passé de traiter de telles différences hommes-femmes comme si cette distinction en rôle faisait preuve d'une capacité inférieure de la femme pour certaines tâches, pour enseigner ici les hommes dans l'église, etc. Mais si on pensait cela, quelle honte d'avoir affiché juste une position traditionnaliste au lieu de comprendre la position biblique. Parce que ce genre de traditionnalisme a juste titre révélé comme étant un conservatisme qui n'avait pas des fondements. La différence, ce n'est pas une question de capacité. Beaucoup de personnes sont capables de venir ici et parler devant les autres. Mais la différence, c'est une différence en rôle et non pas en capacité. Ok, troisième application, c'est de ne pas confondre mon ressenti, c'est le C, la lutte entre ce que je suis et mon ressenti de ce que je suis. Pas confondre mon ressenti avec la réalité de ce que je suis grâce à ma création à l'image de Dieu. Car tel est l'impact du péché que je peux éprouver des sentiments pour des personnes du même sexe. Je peux éprouver des sentiments qui cadrent mieux avec l'autre genre. Je peux éprouver, suite à un concours de circonstances pénibles, un désir de procéder avec l'avortement ou d'imaginer ce que ce serait de pratiquer l'euthanasie. Je peux même, rien que par mon éducation ou mon cercle familial, avoir adopté des attitudes plutôt racistes, même dans une église, sans que cela soit volontaire. Nous pouvons avoir quelques attitudes racistes dans notre façon de nous comporter. Mais ces ressentis ne sont pas naturels. Ils peuvent apparaître à nous comme étant naturels. Mais en réalité, ce sont des distorsions qui arrivent lorsque le monde est soumis à la futilité après la chute. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Ça nous mène à notre conclusion. La nécessité d'une nouvelle identité en Christ. Comment faire face avec courage, avec grâce, à cet écart que je peux ressentir? C'est le sujet de la semaine prochaine, cela. Il faut trouver une nouvelle identité en Christ. Cette identité qui commence le jour où je mets ma foi en Christ et qui vient à son point culminant lors de la nouvelle création. Jésus, lui, n'est pas créé à l'image de Dieu, comme les êtres humains. Il est l'image de Dieu. Et en lui, nous pouvons trouver une autre identité. Ce n'est que en Christ que je peux trouver une réconciliation pour mon péché avec un P majuscule. Le rejet de Dieu. En tant qu'homme qui porte l'image d'Adam, je suis aussi coupable qu'Adam. Ce n'est qu'en trouvant le pardon de Dieu et la paix de Dieu en Christ que je peux, avec une nouvelle identité en Christ, faire face avec grâce à mon identité en tant qu'être créé par Dieu. C'est super important pour notre témoignage auprès des autres, ce point-ci. Car parfois, nous donnons l'impression que notre message à ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, les chrétiens sur ces points, c'est simplement un message de correction, de dire « vous avez tort ». Ce que vous faites, ça va à l'encontre de ce que Dieu dit. Vous devez changer votre façon de vivre. Mais ce n'est pas le cas que notre message commence là. Non, notre message, c'est de trouver Jésus-Christ. Et lui, grâce à son œuvre en nous, il donnera grâce pour nous transformer à son image. J'aimerais terminer, si vous voulez bien, avec Rosaria. Là où on a commencé, cette femme lesbienne attirée en même temps par la foi chrétienne. Mais voici ce qu'elle disait par rapport à son histoire. C'est une longue citation, mais je pense que ça vaut la peine, parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se tourne à Christ. Donc voici ce qu'elle a dit. Il y a 20 ans de cela, je vivais comme une homosexuelle et j'avais une partenaire que j'adorais, tout comme notre maison dans la région de Finger Lakes et nos Golden Retrievers et notre boulot. Lorsque Christ m'a appelé pour être à lui, je n'ai pas cessé de me sentir homosexuel. Je n'ai pas cessé d'aimer les femmes. Je ne suis pas converti de mon homosexualité, j'étais converti de mon manque de foi. À l'origine, ma conversion à Christ n'a rien changé dans mon attirance pour les femmes. Ce que la conversion avait changé en moi, c'était mon cœur et mon esprit. Mon esprit brûlait pour la Bible. Et je ne me lassais jamais de la lire ou d'en apprendre davantage à son sujet. L'Évangile m'a apporté une lumière qui a causé un ravage en moi. Elle a fait un ravage dans la vie que j'adorais. La lumière du Seigneur a pleinement éclairé mon péché à travers la loi. Elle a illuminé mon espérance à travers Jésus et l'Évangile. L'Évangile m'a détruite avant que le Seigneur ne me reconstruise pleinement. En disant oui à Jésus et non au désir de ma chair, j'ai appris que le seul chemin vers la paix avec mon Dieu était à travers la croix, celle sur laquelle Jésus est mort et celle que j'étais appelé à porter avec l'aide de Jésus. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir vivre dans ce creuset, comment était-ce possible que ce que j'ai aimé était péché. Comment pouvais-je haïr mon péché sans me haïr moi-même? Comment pouvais-je haïr mon péché et en même temps être attiré vers lui? J'ai appris que le péché ne perdait pas sa nature de péché, tout simplement parce que je l'aimais. J'ai appris que mon homosexualité était une conséquence logique de la chute de l'homme, l'empreinte du péché originel sur certains d'entre nous. Il est un fait que certains d'entre nous sont nés ainsi. Il est aussi vrai que nous sommes tous nés dans le péché, d'une manière ou d'une autre. On peut haïr son péché sans se haïr soi-même, parce qu'en remettant sa vie à Jésus, on se retrouve dans sa justice et non la nôtre. Notre véritable identité ne se situe pas dans le péché contre lequel nous nous battons, mais dans le Sauveur que nous accueillons. Je ne sais pas, chers amis ou chers frères et sœurs, où est-ce que vous avez du mal avec votre propre identité aujourd'hui, ce matin. Mais votre véritable identité ne se situe pas dans le péché contre lequel vous vous battez, mais dans le Sauveur que nous accueillons. Prions ensemble. Notre Dieu, quelle grâce tu nous fais en Jésus-Christ. Nous qui, comme Adam, avons désobéi à ta parole, avons douté de ta bonté et de ton jugement. Toi, en Christ, tu nous as aimés. Tu nous as rachetés. Nous t'appartenons. Merci Seigneur que cela nous permet dans ta grâce à découvrir vraiment qui nous sommes en Christ, mais aussi en tant qu'être créé à ton image. Et donne-nous donc de vivre, de découvrir notre réelle identité. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire. Nous te prions aussi en tant qu'Église que nous puissions proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme le seul moyen pour les hommes et des femmes qui luttent avec leur identité, de trouver réellement qui ils sont. Fais-nous grâce, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons enchaîner, chers amis, avec le repas du Seigneur. Pendant le repas du Seigneur, nous allons chanter un chant qui exprime notre